De retour à l'épreuve des faits, maintenant accompagné de Philippe Pesant-Belmont. Philippe, tu as la couverture de l'Assemblée générale annuelle du Musée de la mer. Qu'est-ce qui en est sorti?
Oui, effectivement. Donc, le Musée de la mer qui a connu l'an dernier, donc en 2023-2024, donc à l'année financière, c'était terminant au 31 mars 2024, une augmentation de son achalandage annuel et aussi un léger excédent au niveau de ses dépenses, bon,
ses
dépenses
opérations,
et revenus, tout ça. Donc, ça donne un excédent de quelques milliers de dollars. Dans ce qui a été présenté de façon préliminaire, on parle d'environ 5 600 $, mais c'est des chiffres qui sont peut-être appelés à évoluer parce qu'il restait des petites choses à calculer, mais ça devrait tourner quand même autour de ça selon ce qu'on nous a présenté. On anticipe par contre un gros déficit pour l'année à venir, donc on parle d'environ 72 400 $ de déficit prévu. Évidemment, ça a été une bonne année pour le musée cette année parce qu'entre autres, on a vendu des bâtiments sur la grave. Ça a permis justement d'éviter de faire un déficit de ce côté-là, mais on le sait, hein, les aides financières liées à la COVID, c'est terminé. Et aussi, il y a beaucoup de dépenses qui ont augmenté entre-temps. Monsieur, madame, tout le monde, on le sait, ça augmente partout, mais c'est vrai aussi pour les organismes comme le musée de la mer. Et dans ce contexte-là aussi, il y a des aides financières, le financement public de la part du ministère de la Culture et des Communications qui stagne. Et donc, il y a un cri du cœur qui est lancé par le Musée de la mer et par d'autres musées dans l'Est du Québec par rapport à ça. Je vous laisse entendre un extrait de l'entrevue que j'ai faite avec Mme Gabrielle Leblanc, qui est directrice générale du Musée de la mer, à ce sujet-là.
Le premier élément du plan d'action a été de nous parler, déjà les musées de l'Est, de voir est-ce que notre réalité est exceptionnelle ou est-ce qu'on est plutôt dans la norme par rapport à d'autres musées qui ont des missions comparables à la nôtre et qui sont aussi dans des régions assez excentrées, on va dire, des grands centres où ce qu'on retrouve toutes les expertises et tout ce qu'il faut pour faire vivre un musée. Et qui, par ailleurs, sont souvent très bien subventionnés. On s'est aperçu assez vite qu'on avait tous des sous-financements, des difficultés de type structurel, donc, et qu'on avait tout ça en commun. Difficulté de recruter de la main-d'œuvre et de la maintenir en place, ce qui est si important pour un musée. Mais quand on n'arrive pas à offrir les conditions de travail que les travailleurs formés, diplômés, sont en droit de demander au bout d'un an ou deux, c'est sûr qu'avec quelques années d'expérience, souvent, ils veulent aller poursuivre leur carrière ailleurs. Donc, un roulement de personnel pour un musée, c'est très néfaste. Ça, c'est la première affaire. On a tout ce problème-là. On a tout un surplus de coûts par rapport aux matériaux qu'on achète parce qu'il faut acheter souvent en dehors de là où on est parce qu'il n'y a pas des avantages sur place, transport, surcoût avec les expertises. Si on a besoin des consultants, ben nous autres, il faut qu'on commence par le faire venir aux îles. Bref, toutes les aléas par rapport à l'éloignement, on les vit aussi. Le désœuvrement culturel un peu qu'on va vivre, le mot est peut-être un peu fort, là, mais tu sais, comme une sorte de grand ralentissement d'activité culturelle hors saison. Tu sais, on est tellement structurellement organisé pour la saison estivale. Ça, c'est un héritage des 30 dernières années de considérer que les musées sont avant tout des lieux d'appel touristique. Donc, on n'investit pas nécessairement dans le rôle que le musée peut jouer ou qu'un musée régional peut jouer hors saison pour les écoles, pour la population locale, pour les associations communautaires, pour un paquet de monde. Donc, à défaut de moyens suffisants, on fonctionne en équipe réduit l'hiver, on engage du surplus de main-d'œuvre l'été parce qu'on est structurellement organisé pour ça. Vous voyez, donc on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes tracas et les mêmes problèmes. Ça a été la première chose, ça a été de se parler, de se regrouper, de s'échanger de l'information, puis faire des représentations auprès de notre ministère pour expliquer que le sous-financement des musées de l'Est est vraiment quelque chose, lui, d'endémique et que ça demandait vraiment un redressement. On avait adressé une demande pour une aide d'urgence pour les 5 prochaines années pour nous aider à remonter la pente et après ça, retrouver la voie du développement. Comment se développer? C'est quasiment le problème du tiers-monde. Comment faire avec rien? Comment faire avec peu? Puis atteindre des objectifs de développement mirobolants quand on n'a même pas les conditions pour les réaliser.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des expositions cet été au musée? Il y a beaucoup de changements quand même d'année à l'autre. Là.
Oui, puis d'emblée, je dirais que l'exposition d'Annie Morin, on le sait, l'artiste sculptrice a été un grand succès pour le musée de la mer. Mais bon, c'est une exposition qui est déjà terminée et on prévoit donc une exposition sur le rocher aux oiseaux qui devrait donc être dévoilée dès l'été. Je vous laisse encore écouter Mme Gabrielle Leblanc à ce sujet.
En matière d'offres muséales, on a travaillé très fort cette année pour monter l'exposition sur le rocher aux oiseaux, qui n'est pas encore prête. Et je n'ai pas à faire nécessairement des excuses là-dessus, parce qu'on a travaillé cet hiver à 3 employés permanents et avec des problèmes de chauffage. Donc, on a avancé à la vitesse qu'on a pu. Mais du moins aussi, c'est que plus on cherche, plus on fait de recherches sur ce sujet-là, mettons, celui-là par exemple, un peu n'importe quel sujet, plus on en trouve. Donc, à un moment donné, c'est difficile de s'arrêter aussi. Parce que là, on a fixé un concept, tout d'un coup, il arrive quelqu'un qui vient nous présenter un superbe objet qu'il avait chez lui ou chez elle. Tu vois, ça demande beaucoup de travail de fond qu'on aime beaucoup faire, parce que ça nous met en contact avec du monde. Puis en même temps, ça nous fait connaître notre histoire, nous aussi. Fait qu'on s'est dit, celle-là, on va prendre notre temps, parce que c'est la première exposition vraiment à teneur historique qui est montée par l'équipe du musée, puis on va la faire durer 2 ans. Fait qu'on s'est dit, même si on l'inaugure un peu plus tard que d'habitude au musée pour l'été, elle va être là pour l'automne, elle va être là pour l'hiver, puis l'été qui vient, puis bon. Et là, ça va nous permettre aussi d'activer un programme d'animation autour de ça, ce qu'on n'a pas le temps de faire avec les expositions de 6 mois. Donc, le rocher aux oiseaux, c'est un sujet fantastique qui a mobilisé beaucoup de monde et enthousiasmé un paquet de collaborateurs. Et on en est très fiers. Mais j'ai hâte de l'inaugurer, par exemple. Ça ne devrait pas être bien long. Il nous manque encore quelques morceaux, les délais de livraison étant ce qu'ils sont aux îles de la Madeleine. Donc, évidemment, il y a des choses qu'il faut qu'on commande, mais on croise les doigts pour bientôt, là, d'ici une semaine ou deux. Mais on a déjà commencé à amener du monde dans la salle, à leur présenter les artefacts qu'on a, qui a été collecté en 2020 par le musée et tout ça, quand ils l'ont démantelé. Puis, toute la beauté de l'affaire aussi, c'est que ce rocher-là qui est en train de disparaître, mais complètement à petit feu, là, tu sais, envahi d'oiseaux et tout démantelé et tout ça, et qui va s'éroder comme ça de plus en plus, ben, il y a une mémoire à sauver aussi, hein, de tout ça. Le dernier gardien vivant qui a été vraiment gardien, là, on l'a interviewé cet hiver, c'est le dernier. Donc, de collecter de la mémoire pendant qu'elle est là, ça fait aussi partie de la mission du musée. C'est pour ça qu'on en est si fiers aussi.
Oui, donc en parlant d'expo justement, j'ai posé la question à Mme Leblanc de savoir si, lorsqu'il était question dans l'Assemblée générale de recentrage un peu de la mission du musée autour du patrimoine et de l'histoire, est-ce que ça voulait dire qu'il n'y aurait plus vraiment d'exposition artistique ou communautaire dans les murs du musée? Voici ce qu'elle m'a répondu.
Non, ça ne met pas un terme, surtout pas aux expositions communautaires, parce qu'on continue d'avoir des propositions de collaboration pour des expositions parfois plus petites, parfois c'est des projets de jeunes de la relève, c'est peut-être un projet du comité ZIP, sur les herbiers, ce genre de collaboration qui nous intéresse. On a quand même gardé de la place dans le hall d'entrée. Justement, le service loisirs nous a prêté ces panneaux, on est rendu là, pour pouvoir faire des expositions plus petites, temporaires, sur toutes sortes de sujets, laisser la place aux élèves des écoles. Donc, et aussi, à l'intérieur de nos expositions d'histoire et de patrimoine, il ne faut pas oublier qu'il y a une part artistique là-dedans. Juste la bande sonore qui a été préparée pour l'exposition du Rocher, je dirais, c'est une création qui, moi, je la trouve à un niveau, là, on est loin de l'amateur. Là. On est plus dans quelque chose de très émouvant, bien fait, qui a été travaillé, qui est inspiré. Et au fond, on est aussi, on n'est pas nécessairement dans l'art visuel, mais on est dans l'art musical et sonore. Et aussi, dans l'exposition permanente, on a aussi parfois des belles pièces artistiques qu'on peut ajouter. Donc, faut que ça s'intègre. Je pense que c'est l'histoire en largeur, en long, en large et en travers, là, et aussi à vue, parce qu'on navigue à vue. Là, on essaie de ne pas faire du linéaire, puis c'est plus en forme de récit. Donc, ça, de présenter l'histoire en forme de récit, ça permet d'intégrer des éléments artistiques pertinents.
Donc, Mme Leblanc plutôt a parlé de, évidemment, de 3 employés qui sont à temps plein au musée. Là, il y a 8 employés qui sont, disons, à l'année, si on veut, entre guillemets, qui sont des ressources professionnelles, disons, à l'année, plus 2 étudiants qui sont là pour l'été. Mais dans les personnes à l'année, bon, il y a Michel Boudreau qui est muséographe. Il y a aussi Chloé Cormier qui travaille à la conservation et aux collections, en plus de Mme Leblanc à la direction. Et il faut le dire, hein, il y a... Cette ressource-là, en la personne de Chloé Cormier, c'est une, je vais le dire comme ça, en termes très ressources humaines, c'est une nouvelle acquisition pour le Musée de la mer, mais en quelque sorte, c'est une personne qui a une spécialité donc en anthropologie judiciaire, et ça amène quelque chose de plus dans la manière pour le musée d'intervenir dans la communauté. Je laisse écouter Mme Leblanc répondre à la question que j'ai posée là-dessus.
Ben, ça permet d'envisager des nouveaux créneaux pour de la recherche et du développement. Parce qu'on ne va pas passer notre vie à répéter et à ramancher tout le temps les mêmes contenus, évidemment. Un musée se doit d'être aussi, d'avoir une approche scientifique, une approche de recherche, et d'avoir du personnel comme Chloé, justement, qui elle-même a un profil très scientifique. Ça amène une rigueur, ça amène une méthode, ça amène une détermination à trouver les données qu'elle cherche ou la vérité qu'elle va chercher, elle, dans l'histoire. C'est un apport qui est très différent, par exemple, de celui d'un muséographe comme Michel, qui, lui, va concevoir un récit où ce que les gens vont se promener là-dedans, puis là, il va illustrer tout ça, puis après, il va l'animer ça avec les enfants d'école. C'est des profils très différents. C'est tout ça qui fait une équipe qui se tient. Donc, Chloé a la rigueur scientifique, les certifications aussi, parce que c'est un domaine juridique complexe. Quand on parle d'anthropologie, là, tu sais, judiciaire, pour tout ce qui est archéologie ou même des gens qui peuvent trouver, parfois, il y a des gens qui sont venus ici porter un os ou quelque chose qu'ils avaient trouvé sur le rivage pour que Chloé examine et aller qualifier pour savoir si c'est de nature anthropologique ou judiciaire pour rapporter ça ensuite à la SQ et tout ça. Il y a toutes sortes de certifications, il y a toutes sortes de règles là-dedans. Ça amène aussi une crédibilité, un professionnalisme à un musée comme celui-ci. Dans un environnement comme celui-ci aussi, où on a beaucoup de pièces d'archéologie en péril, un peu avec l'érosion, puis plusieurs sites de sépulture aussi.
Donc, en concluant, Justin, sachez que le conseil d'administration du musée a été renouvelé et en fait, a la même composition qu'auparavant, c'est-à-dire que c'est un conseil d'administration complet. Donc, les 3 personnes qui étaient en élection ont été élues. Et le conseil d'administration compte aussi se pencher sur éventuellement la recréation, la refonte de la fondation du musée de la mer pour justement faciliter l'accès à des revenus autonomes pour l'institution muséale.
Un grand merci, Philippe, pour tout ça. On se revoit dans quelques instants pour le retour sur l'actualité de la semaine.